t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Voilà, merci de nous accepter chez vous, mesdames et messieurs. Une fois encore, merci de votre fidélité à Parole aux auditeurs, votre magazine d'échanges citoyens sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. Dans un rapport publié cette année, la Banque mondiale révèle que de 2003 à 2013, soit 10 ans, le sous-sol de la RDC a produit près de 50 milliards de dollars américains. Cependant, la traçabilité montre qu'à peine 6 milliards de dollars sont entrés dans la caisse de l'État. Cette affaire relance donc à nouveau les débats sur la question de la lutte contre les abus de la gestion publique. Qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 89 69 ou bien au 09 97 06 63 30 pour votre intervention en direct. Heureux donc de partager ces 57 minutes interactives avec vous, mesdames et messieurs. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Héritier Sidiakal assure la mise en onde de ce programme produit par Nico Kalambay et Piro Elamegi sous la supervision des Martin Sebou Jangoué et la coordination et la présentation des JR Lungembo Luabung Anji. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Voilà, une fois encore, merci de votre fidélité. Si nous croisons, faites les deux rapports. Au fait, le premier rapport de celui de la Banque mondiale et le deuxième de la Banque africaine de développement, on se rend compte que il y a une lueur d'espoir pour la BAD, bien que frappée par une crise financière et monétaire depuis 2016, la RDC connaît aujourd'hui une économie croissante de son produit intérieur brut. Selon donc ce dernier rapport. Mesdames et messieurs, nous avons dans ces studios Joe M. Sekimonyo, en tout cas il est professeur congolais, disons aux États-Unis. Il est avec nous, il est économiste, analyste économique. Nous allons ensemble, au fait, faire des analyses par rapport à cette question. Bonjour, professeur Joe M.
Bonjour, bonjour.
Alors, d'entrée des jeux, quel regard portez-vous sur ces rapports de la Banque mondiale? 50 milliards en 10 ans, les 6 milliards seulement sont entrés dans la caisse de l'État.
Pour moi, c'est un faux problème. C'est vraiment un faux problème. On regarde les paramètres auxquels, pour le développement aujourd'hui, on joue avec les chiffres, que ce soit 60, 50 millions sont entrés, 18 millions, même s'il y avait 50 milliards qui sont entrés dans les caisses, on est en train de nous montrer un mauvais miroir. C'est comme aujourd'hui, on parle de développement. J'ai vu dans un journal, on dit Chikudu,
les motards artisanaux à Goma, voilà.
On dit voilà, ça crée de l'emploi à Goma, c'est pour les jeunes. Je dis, c'est double mesure de développement. Ici, on nous parle de 50 milliards, mais dans d'autres pays, l'Occident, on parle du SMIG.
Salaire minimum intégré.
Salaire minimum intégré. L'index sur. Ici, on parle du GDP, qui est produit intérieur brut, qui est en français, j'ai oublié le nom. PIB.
PIB. Mmh.
Mais là-bas, on prend de l'index entre le riche et le pauvre, l'écart entre riche et le pauvre. Alors, c'est ça que je dis que...
Donc, nous sommes dans deux mondes différents.
Deux mondes différents, mais c'est aussi de notre faute. Parce que on nous jette à la pas d'une discussion, et on continue sur cette voie.
Est-ce que la question, c'est qu'il y a un problème de gestion de la chose publique, ou bien c'est carrément, ça peut être pris en compte par rapport à toutes les difficultés que nous avons connues pendant les 10 dernières années?
C'est pas ça. Je pense que quand vous posez une question, si vous voulez une bonne réponse, il faut poser une bonne question. Maintenant là, on pose une mauvaise question de gestion. On a l'habitude de parler de la corruption. La corruption, c'est
la
partout.
Fraude.
La fraude, c'est partout, quoi. Moi, je parle plutôt, on n'a pas un problème de...
Aux États-Unis, est-ce qu'il y a la fraude?
Il y a la fraude. Il y a la fraude partout. Il y a des cas, on arrête. Il y a des années où un gouverneur voulait vendre l'ancien siège du sénateur Obama.
Ouais, ça, c'est, on connaît Chicago, le Nord, il y a des scandales. Mais chez eux, c'est une autre question.
Donc la fraude, la corruption ne peut pas être, une excuse à 100% par rapport à toutes les difficultés des trésoreries, par exemple, au niveau du pays.
Oui, oui, on n'a pas un problème d'administration. On a un problème de l'idée, comment on définit le rôle de l'État. Mm-hmm. C'est ça le problème. Ici, c'est l'État, c'est le papa. Ouais, il prend, il nous gère. Moi, je suis dans
la providence.
Ouais, je suis dans le taxi. On vous demande qu'est-ce que vous voulez de l'État. Il dit nous faire nourrir et tout. Mais quand vous êtes dans les pays développés, il dit non, l'État, c'est mes taxes. Il fait ce que je veux. Ouais. Mm-hmm. L'Assemblée, le Congrès, c'est comme ils travaillent pour moi. Je travaille pas pour eux. Mm-hmm. Et ça, c'est ce que j'appelle le droit de la conscience. Mm-hmm. Ici, on sent pas que les gens sentent qu'ils ont droit à la conscience. Ici, j'aime même pas qu'on m'appelle professeur. Parce que, oui, quand j'enseigne, oui, je suis professeur. Et tout. Mm-hmm. Mais ici, quand on vous appelle professeur, on dit, il connaît tout. C'est lui qui a la seule personne.
Le monopole du savoir.
Oui,
il a le monopole du savoir. Et puis, donc, il a les derniers mots.
Il a le dernier mot. Moi, je suis là pour dire, non, moi, je sais que des fois, il y a des gens qui ont mal à trouver les bons termes pour expliquer un certain contexte.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est vrai, la fraude, vous l'avez dit, ce n'est pas une excuse, encore moins la corruption, mais quand la Banque mondiale publie de tels rapports, est-ce que ça reflète réellement la réalité?
Non, ça ne reflète pas. Ça, ce sont des économistes. Ils se font derrière les bureaux à New York, à Washington. Il vous faut... Et ça, ces mouvements-là, des chiffres, quand vous regardez après la Deuxième Guerre mondiale, les gens ont voulu calculer, justifier. Quand vous regardez, par exemple, le GDP, le PIB.
Le PIB, oui.
C'est, le PIB, il y a trop d'erreurs. Il n'est pas aussi invalide, mais le PIB vous donne un certain contexte économique. Mais maintenant, le danger qu'on utilise le PIB pour faire des programmes sociaux, c'est ça le danger, où un politicien prend un chiffre et court avec sans comprendre les notions qui sont derrière.
Alors aujourd'hui, c'est vrai, le sous-sol congolais est très riche, j'imagine que vous avez déjà eu à mener des études pour, au fait, aider les pays à profiter de son sous-sol. Quelle peut être la recette magique?
Moi, je dis que quand on parle de pays et riches sous-sol, c'est vraiment l'approche coloniale, quoi. Le pays, même les richissants, moi, je dis, il est très pauvre, quoi. Il faut avoir l'argent pour creuser. Mmh. Et la valeur ajoutée, elle est un peu compliquée, quoi. Aujourd'hui, parmi les plus grands producteurs du pétrole, c'est les États-Unis, mais ils n'en parlent pas, parce que c'est pas ça qui amène aujourd'hui au XXIe siècle, aider le standard de vie des gens, quoi. On doit parler d'autre chose. On doit se dire que le Congolais n'a pas le moyen pour participer au XXIe siècle. On doit se dire que le Congolais ne peut pas écrire l'histoire, le futur, participer à des grandes discussions. C'est ça la richesse dont je cherche.
Donc le problème, c'est aussi la transformation de ces richesses.
Non,
c'est la grande question.
Non, c'est non. Pas. Il faut mettre les richesses sous son de côté.
Comment on va se développer?
On doit se développer pour dire que ça va prendre du temps. On doit discuter. Pour moi, je mets sur la table, je dis, ok, on doit créer artificiellement, peut-être utiliser les réserves pour faire un bon...
Donc créer d'autres richesses.
Créer d'autres richesses.
Mais pas les sous-sols seulement.
Non, mais la richesse numéro un aujourd'hui au XXe siècle...
C'est la conscience. Vous l'avez dit.
C'est la conscience. Droit de la conscience. C'est le moyen de participer au XXe siècle. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui quelqu'un creuse, un exemple je donne, vers les années 1900, il y avait 80% de la population des États-Unis qui était dans l'agriculture. Et comment on appelle ça?
L'agriculture.
L'agriculture, mais la viande et trucs étaient très chers et les gens avaient faim. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, moins de 6% sont dans l'agriculture et il y a tellement à bouffe. Ça veut dire quoi? C'est la science, l'application de la science qu'on doit regarder. On ne doit pas parler d'agriculture. On doit parler de les moyens de communication aujourd'hui, la technologie, l'innovation. Et c'est après qu'on peut utiliser l'innovation pour développer d'autres secteurs. Creuser, vendre. Par exemple, aujourd'hui, on devait être en mesure que les jeunes comprennent le stock market. Vendre les futurs stocks, les minerais. C'est à ce moment-là qu'on peut créer une valeur ajoutée, pas creuser, mais essayer de créer un marché où je peux vendre le pétrole du Congo de 2020.
Alors merci Joe M. Sekimonio, vous êtes professeur, je le rappelle, à la liste économique. Nous parlons avec vous et aussi avec d'autres auditeurs qui viennent à peine de nous rejoindre de ce dernier rapport publié, en tout cas pas les derniers, hein, un des rapports publiés cette année par la Banque mondiale qui révèle que de 2003 à 2013, le sous-sol de la RDC a produit près de 50 milliards de dollars américains. Cependant, la traçabilité montre qu'à peine 6 milliards de dollars sont entrés dans la caisse de l'État. Adrien, vous nous avez rejoint à ce niveau du débat. Adrien, bienvenue. Quel est votre avis, Adrien?
Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur JR. Bonjour à l'invité. Bonjour aux auditeurs de Radio Capi.
Quel est votre avis?
Alors, nous avons suivi la publication de ce rapport, qui est vrai, même si l'invité tente d'essayer d'échapper à la question, mais c'est une réalité. Pour vivre cela, il suffit tout simplement d'aller dans des zones minières. Moi, j'ai eu la chance de grandir au Katanga et j'ai essayé de sillonner le tronçon Lubumbashi-Kolwezi. Si vous y allez, mais vous allez vous poser des questions, où va cet argent? Parce que ce sont des mines qui sont exploitées à ciel ouvert et ce sont des camions et des camions qui sont en train de transporter des minerais. Mais aujourd'hui, nous ne savons même pas, la RDC a le budget de combien? Parce que la question qui se pose, nous soulevons toujours dans des débats pareils, c'est qu'il est établi que la RDC est potentiellement riche, mais le contraste, c'est que le Congolais est l'un des peuples les plus pauvres au monde. Et la difficulté qui se pose, c'est parce qu'on n'a pas une politique nationale. Je prends l'exemple de la Chine. Au moins, la RDC a eu la chance d'être colonisée parce qu'il y a eu des Blancs qui étaient venus, qui ont implanté quelques usines que nous utilisons même jusqu'aujourd'hui, des entreprises amenées par les Blancs. Mm-hmm. Mais la Chine a été colonisée. Mais lorsque les Chinois avaient pris conscience, et je parle ici du politique chinois, a pris conscience que le développement devrait sortir des Chinois eux-mêmes, il y a eu une politique d'une manière diversifiée. Nous avons notamment le riz. Il y a une partie qui s'est développée, une partie de population chinoise, qui se sont basées beaucoup plus dans l'agriculture, une autre qui est partie dans l'industrie, une autre qui est partie dans la technologie. Et aujourd'hui, la Chine est devenue la grande puissance stratégique occidentale. Et la Chine commence même à concurrencer les grandes puissances impérialistes. Mais avec sa politique communiste, aujourd'hui, la Chine a beaucoup d'ampleur.
Oui,
d'abord, la situation géographique devrait permettre à ce que le Congo puisse être une grande puissance. Mais par manque de politique, nous avons le cuivre, nous avons le cobalt, nous avons l'uranium. Mais où va la recette que nous sommes en train de recouvrer à partir de ces richesses? Ce n'est pas seulement la Banque mondiale. Il y a eu même dernièrement ici Bloomberg, il y a eu aussi l'ITIE qui essaie toujours de publier. Mais il n'y a pas de réaction sur le plan d'améliorer cet aspect-là. Voilà pourquoi nous...
Oui, mais Adrien, quand on scrute les derniers rapports d'ailleurs de la BAD, on se rend compte que nous sommes là devant deux rapports contradictoires. L'un qui parle de la question sur la traçabilité qui sous-tend donc la question de la fraude et de la corruption. Mais de l'autre côté, la BAD évoque dans les rapports que, bien que frappée par une crise financière et monétaire depuis 2016, la RDC connaît aujourd'hui une énorme croissance de son produit intérieur brut. Alors, donc, comment voyez-vous ces deux contradictions?
Parler de l'énorme croissance, c'est de la poudre aux yeux. Nous avons vécu tous ces concepts-là avec le Premier ministre Matata, et croissance à deux chiffres. Et aujourd'hui, nous sommes dans quelle situation? On avait une stabilité macroéconomique, mais on n'a pas su financer les élections. On avait une croissance, je ne sais pas, à deux chiffres, mais le taux de dollar était en train de monter. Moi, je pense que, bon, d'une part, parce que vous savez, ces institutions, ce sont des institutions qui, d'une part, cherchent à complaire parce que leur partenaire, c'est aussi le public, le secteur public qui est l'État. Et de l'autre part, ils essayent un peu de creuser le mal, mais tout en ne cherchant pas à blesser. Or, le mal est tellement profond qu'il faut, s'il faut le dénoncer, il faut le dénoncer à haute voix afin que la prise de conscience soit réelle. Voilà pourquoi aujourd'hui on ne peut pas se complaire de dire qu'il y a une croissance des PIB. Il faut qu'il y ait des indicateurs.
Voilà. Alors, faux partout, faux dans les rapports de. Vous avez dit, en tout cas, c'est une réalité, la question de la traçabilité. 50 milliards, 6 milliards seulement sont entrés dans la caisse de l'État. Et de l'autre côté, avec la BAD qui évoque des avancées énormes par rapport à notre PIB, vous dites que c'est un rapport qui doit être considéré irréel. Merci beaucoup, Adrien. Maître Gervais, vous êtes à Calémie. Bonjour et bienvenue. Maître Gervais, vous êtes avec nous ? Alors, on prend Maître Adrien qui est à Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour, Gérard Mbembo. Bonjour à M. l'invité.
Quelle est votre contribution ? Après avoir suivi d'ailleurs Adrien Mouniamali, qui, au fait, revient pour ne partageant pas donc, au fait, le point de vue de notre invité en disant que le rapport de la Banque mondiale, il est réaliste. Mais la grande question aujourd'hui, comme l'a dit notre invité, est-ce que nous devons simplement dire qu'à cause de la fraude ou de la corruption, que la RDC a du mal à prendre de l'envol ?
Oui, merci beaucoup, JR. Je pense que je ne suis pas aussi d'accord avec l'invité parce que lorsque vous prenez ce récent rapport, vous le confrontez avec d'autres rapports. Je cite le rapport Lutundula, le rapport Mayobo. Vous allez vous rendre compte que ce sont les rapports qui se croisent. Donc, sur une certaine évidence, la vérité est que la gestion n'est pas bonne. Donc, dire aujourd'hui que si la RDC ne s'est pas relevée, effectivement, c'est à cause de cette mauvaise gestion. Parce que lorsqu'on vous dit qu'on devrait mettre dans les trésors 50 milliards, mais c'est 6 milliards qui sont versés, mais il y a le problème. Et lorsque vous prenez même le rapport de la BAD auquel vous faites allusion, vous allez vous rendre compte que c'est un rapport qui s'écarte totalement de la vérité. Hein, je ne sais pas comment est-ce que la BAD a essayé un peu de donner son rapport là qui est diamétralement opposé avec d'autres rapports. Même l'État congolais se rend effectivement compte qu'il y a un problème de gestion, de bonne gouvernance qui se pose dans notre pays. Ce qui me fait dire au jour d'aujourd'hui, pour ne pas même invoquer le rapport même du professeur Luzolo, vous allez vous rendre compte que tous ces rapports-là tournent autour d'une seule vérité. Moi, je pense, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que nous prenons certains pays africains qui n'ont pas assez de richesses comme nous. Mais parce qu'il y a de l'ordre, il y a de l'organisation, il y a la bonne gestion, il y a la bonne gouvernance, ces pays-là sont de loin, alors de loin que nous. Au jour d'aujourd'hui, nous pensons, j'ai toujours dit que le jour où la bonne gouvernance sera une règle reconnue par tout le monde, ça sera le développement et puis l'envol dans notre pays. Parce que même lorsque l'invité donc n'est pas totalement d'accord avec ce rapport-là, mais vous allez vous rendre compte que tout le monde est en train de décrier. Hein, tout le monde dit que il y a certaines personnes en RDC qui sont devenues plus riches que l'État lui-même. Pourquoi ? Parce que vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil, voir les constructions qui s'érigent sur toute l'État de la RDC. Donc vous comprendrez que c'est un sérieux problème. Ce rapport ici doit servir de leçon à mon avis pour l'État congolais, pour voir comment ça s'enchaîne.
Merci beaucoup. Merci Maître Adrien. On va prendre Félicien qui est à Kinshasa. Félicien, vous êtes avec nous. Bonjour.
À tous les auditeurs de Radio Okapi, bonjour à l'invité.
Quel est votre avis, Félicien?
Non, mais écoutez, chaque année, les gens dénoncent, les gens s'indignent de voir que nous avons un budget pour 80 millions d'habitants, un budget de 5 millions de dollars, 6 millions de dollars. Et pour ça, les dirigeants savent les champagnes quand ils ont atteint ce budget-là. Et des rapports comme ça, nous devions voir ce qui nous dirige et réagir. Parce qu'on ne peut pas produire autant de milliards seulement pour les sous-sols, sans tenir compte d'autres aspects ou d'autres domaines. Et nous avons un budget médiocre qui ne peut même pas résoudre les problèmes de tout un pays, de tout un peuple. La réaction de ceux qui nous dirigent devrait être conséquente, mais j'ai l'impression qu'ils passent leur temps à discuter leur temps à refuser même d'accepter la réalité qui est en face d'eux. Est-ce que nous sommes gouvernés par des dirigeants conscients de leurs responsabilités, ou bien ils sont des mercenaires qui sont en train de détruire leur pays et leur peuple? Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Et si nous prenons les pots des indépendances, quand Kazaoui Lumumba et autres ils ont gouverné, il y a eu combien de pillages de ressources, il y a eu combien on a volé. Mais depuis la Deuxième République, c'est devenu une culture. Et comment nous allons nous en sortir de cette situation? Moi, je pense qu'il est temps aujourd'hui à ceux qui veulent diriger, ceux qui se battent pour diriger, de comprendre
voilà.
Pourquoi on doit diriger. Le revenu national, c'est pour tout le monde, c'est pour les 80 millions d'habitants, c'est pour développer le pays, c'est pas pour que ça soit pour un groupe ou bien pour ceux qui dirigent seulement.
Et ça, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Félicien. Alors on revient à vous, professeur Joe, Joe M. Sekimono. Quelle est la réaction d'abord après avoir suivi les uns les autres?
Je comprends le colère des uns des autres, mais je dis en patience, en vision, ça vous amène nulle part. Ils n'ont pas compris le message. Je n'ai pas dit que le rapport est faux. Je dis que les rapports sont irrélevants sur les circonstances d'aujourd'hui. Le monsieur est allé, il voit des camions passer à là-bas, mais n'est pas à l'Inulu. Quand je dis n'est pas, je veux seulement donner l'image.
C'est de manière générale.
Il doit aller à l'Inulu. Si l'Inulu, moi je vais à l'Inulu pour voir combien d'innovations, de matières, de recherches qu'il crée là-bas. Parce qu'on est en train de regarder le mauvais côté du miroir. Moi, je dis, ne regardez pas les camions. Ne regardez pas. Disons qu'on n'a pas, personne n'a volé les 50 millions. Qu'est-ce qu'on allait faire avec? Moi, je dis aujourd'hui, le Congo...
Donc la question, même si on avait ces 50 milliards, qu'allons-nous faire avec?
Qu'allons-nous faire? Maintenant, vous voulez les 50 millions. Et je dis, le problème qu'on a eu maintenant jusqu'à aujourd'hui, on prend le facile, on parle de politique. Et je continue à dire, on a pris vers les années 60... La charrue, on l'a démontée, on l'a mise devant le bœuf. Et la charrue, c'est la politique. Le bœuf, c'est la politique économique. On doit prendre encore la charrue. Ma mission ici, c'est prendre la charrue et mettre derrière. Voir des maisons qu'on construit, ce n'est pas une politique économique. Tant qu'on va commencer à parler d'une façon... c'est facile de parler de l'économie parce que l'économie...
Oui, parce que les immeubles qui sont construits, ça fait preuve de la fraude, de la corruption.
Oui, mais ça, c'est un message populiste. C'est comme une église. C'est pour embarquer de l'émotion. Quand je vous dis on a construit des maisons, il n'y a pas de preuve où est-ce que le type a pris l'argent. Même s'il a volé l'argent, combien...
Il bénéficie encore d'une présomption d'innocence.
Oui. Il présomption d'innocence, c'est ça. Et une maison, ça ne me dit rien. Et moi, je vous dis, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on va faire du Congo politique, économiquement. C'est après que vous allez me dire où va l'argent. Voilà.
Alors, il y a Dr. Noël Tchani qui a fait quand même une proposition pour la sortie de la crise, qu'on va rejoindre quand même rapidement également. Professeur Docteur Noël Tchani, vous êtes quand même un expert à la matière et en cette question. Vous êtes avec nous en ligne. Bonjour, Docteur Noël.
Bonjour.
Alors, d'entrée des jeux, nous parlons donc de ces rapports. Un des rapports publiés par la Banque mondiale cette année qui révèle que de 2003 à 2013, le sous-sol de la RDC a produit près de 50 milliards de dollars américains. Cependant, la traçabilité montre qu'à peine 6 milliards de dollars sont entrés dans la caisse de l'État. Cela serait dû à quoi concrètement?
Bon, d'abord, ces révélations... qui confirme donc la mauvaise gouvernance donc du pays ne sont pas nouvelles. Vous savez que déjà en août 2013, le président Thabo Mbeki d'Afrique du Sud, l'ancien président sud-africain, avait conduit au Congo une mission qu'on avait appelée la mission du panel des experts africains. À la fin de la mission, ils avaient conclu que 85% du revenu des ressources naturelles de la RDC n'entrait pas dans le budget national, dans les caisses de l'État, mais plutôt dans des poches des privés. Quand vous regardez donc ces pourcentages-là, ce que ça veut dire, c'est que le budget ne recevait que 15% des revenus qui devaient y être. Alors, quand vous voyez aujourd'hui, donc on parle donc de 6 milliards sur 50 milliards, ça représente à peu près 12%. Donc 12% à comparer à 15% que le président Thabo Mbeki avait déjà signalé donc à l'époque. Donc tout cela confirme simplement que la RDC est reconnue, d'ailleurs par Transparency International et d'autres organisations citoyennes, comme étant l'exemple même typique de la mauvaise gouvernance économique et politique d'un pays. Dans les conditions actuelles, aucun développement n'est possible avec le système de gouvernance actuel, qui fait que la grande partie donc des revenus qui devaient entrer dans les caisses de l'État, ça va dans des poches donc des privés. Mais la question essentielle que nous devons nous poser est celle-ci. Qu'est-ce que nous devons faire pour améliorer la gouvernance du pays, pour favoriser véritablement le développement, éliminer la pauvreté et créer des conditions donc de développement économique et social durable? Moi, je dirais que de prime abord, il faut souligner que les conditions politiques actuelles, marquées par des institutions qui ne sont pas tellement légitimes, qui n'ont pas d'assises populaires, et marquées par l'absence totale d'état de droit, ne permettent pas du tout d'améliorer la gouvernance donc du pays. Ce que je veux dire en ce qui concerne donc la proposition « Quoi faire pour améliorer la gouvernance » se situe dans un contexte où, après la situation politique actuelle, on aura mis en place des institutions légitimes issues des élections. Dans ces conditions-là, moi, je considérais que la bonne gouvernance doit commencer par placer d'abord l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, en commençant par le sommet de l'État et en le tenant responsable de ses actes dans la conduite des affaires de l'État. Vous savez que la croissance économique inclusive, c'est-à-dire qui profite à tous les Congolais, que nous voulons tous, cette croissance inclusive ne peut pas se réaliser, ne peut se réaliser que sur des bases solides.
Oui,
une bonne gouvernance, oui, des institutions administrées par un État capable qui rend donc des services qu'il faut donc à la nation.
Oui, docteur de Noël.
Peuple congolais.
Oui, docteur Noël, parce que vous évoquez par là donc de la croissance économique, c'est vrai, nous avons également scruté le rapport de la BAD qui vient un tout petit peu contredire un peu le rapport de la Banque mondiale lorsque la BAD insiste que bien que frappée par une crise financière et monétaire depuis 2016, la RDC connaît aujourd'hui une énorme croissance de son produit intérieur brut. Comment vous réagissez-vous personnellement?
D'abord, je voudrais signaler que je ne parle pas ici au nom de la Banque mondiale, donc je ne suis pas mandaté pour parler de ces questions-là et je ne travaille pas à la Banque mondiale, je travaille à la Banque mondiale, mais pas sur la RDC. Donc je ne veux pas entrer donc dans cette polémique-là. Mais tout ce que nous savons aujourd'hui, c'est que ces chiffres-là, en réalité, ne se traduisent pas par le vécu quotidien des Congolais. Quand vous voyez la situation des Congolais aujourd'hui, vous comparez les différents pays africains, en tenant compte donc du produit intérieur brut par habitant, parce qu'il faut relativiser les choses par rapport donc à la taille de la population. On sait aujourd'hui que le Congo est classé comme étant l'un des pays les plus pauvres du monde, avec un PIB par habitant le plus bas du monde. Jusqu'à une époque récente, donc le PIB par habitant de la RDC est de $394, qui est donc l'un des plus bas de la planète. Donc, basé sur cela, je ne peux pas donc dire qu'il y a des progrès énormes. Pourquoi? Parce que les Congolais vivent aussi mauvais qu'ils ont toujours vécu donc dans le passé et ils vivent beaucoup plus mal que d'autres citoyens donc d'autres pays donc africains. Donc, cette croissance à laquelle vous faites allusion ne se traduit pas en réalité par le vécu quotidien donc, de la population congolaise.
Voilà. Docteur Noël Tchani, nous vous gardons en ligne. Je crois que, juste en ouvrant une parenthèse, c'est vrai, vous travaillez à la Banque mondiale. Nous vous recevons en qualité d'expert et surtout en matière de l'économie. Et là, ce n'est plus un secret, vous avez annoncé votre candidature à la présidentielle de la République démocratique du Congo. Nous reviendrons à vous pour juste une question pour voir quelle est la vision que vous avez par rapport à ce secteur de l'économie. Il est temps pour nous de revenir à vous, professeur Joe M. Oui, et rapidement.
Je veux sauter dessus. Je dis les index, par exemple, quand vous regardez un pays comme la Guinée équatoriale, qui a un PIB par habitant très élevé, de, je crois, 14 000 par. Et puis, il y a un autre index qui vous montre, je crois, 80% de la population vit de 2 dollars, moins de 2 dollars par jour. Ces index-là ne vous disent rien. Je dis qu'on parle de. On va vers ce qu'on doit parler et on fuit. Si on parle d'aujourd'hui, disons, le PIB des Congolais en moyen, c'est 300 $. Qu'est-ce qu'on fait pour l'élever? On ne va pas donner l'argent à l'État pour juste relever le PIB. C'est ça que le problème avec le PIB quand on voit la dépense de l'État, on calcule. C'est le PIB, qu'est-ce que je dis? On doit regarder, poser la question dont on parle et puis on fuit. C'est on doit élever le salaire minimum des habitants. On doit parler de l'individu.
Mais croire en quel rapport? Parce que quand nous disons la BAD, qui fait un classement sur les pays africains, on voit la RDC avec une croissance, en tout cas aujourd'hui très 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 élevée, avec 44 milliards 73, celui de Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire 38 milliards.
Yeah, mais vous comparez seulement le chiffre par chiffre. Moi je dis arrêtons de faire ça. Je dis parlons de l'individu. Je dis la bonne gouvernance c'est bien.
Comme l'a dit Dr Tchani, 380 par le passé. Par le passé. Aujourd'hui ça n'a pas changé.
Ça n'a pas changé.
C'est moins d'ailleurs.
Mais le problème qu'il y a là, après parler de ça, on parle de bonne gouvernance, on parle de l'État. Moi je dis non, parlons de l'individu, parlons comment on peut élever. C'est l'état de vue d'un individu. On ne doit pas aller à l'État pour élever le salaire moyen d'un individu. On ne doit pas parler de la bonne gouvernance. On doit se dire qu'est-ce qu'il faut que l'individu soit capable de toucher plus. Aujourd'hui, les moyens de participation.
C'est pourquoi vous avez écrit dans votre livre L'enfer, c'est lui.
Oui, c'est un.
Donc on a toujours tendance à chercher un bouc émissaire.
Un bouc émissaire.
Bouc émissaire, c'est l'État.
Oui,
ce n'est pas l'État, mais c'est l'individu.
C'est l'individu. Ça veut dire quoi? C'est pas que la personne qui vole. Moi, je dis ceci. Je dis, il faut, au lieu de faire parler de l'État, pour donner aux gens, je dis non, le rôle de l'État, c'est prendre mes taxes et faire ce que je veux. Ça veut dire qu'on doit beaucoup plus focus pour mettre notre focus
mais sur la mauvaise gouvernance, dès lors que c'est un État, on a observé.
La mauvaise gouvernance, c'est encore un discours populiste. C'est un mot qui est nouveau, on parle de mauvaise, bonne gouvernance, mais quel est l'index qui vous dit bonne ou mauvaise? Je peux vous dire, je viens de dire,
les Guinées équatoriales. Le peuple n'est pas payé, ne touche pas son salaire, ça sont des indices d'une croissance non inclusive.
Oui, mais l'État, comme la Guinée équatoriale, mauvaise gouvernance, mais le PIB par habitant, ça montre que c'est 14 000 par habitant. C'est très élevé. Mais maintenant, il y a un indice qui montre qu'il y a la différence entre riche et le pauvre, c'est élevé.
La disparité.
La disparité, je dis, c'est ça qu'on doit parler. On ne doit pas parler de l'État. On doit...
Voilà. Merci beaucoup, professeur Joe. On va revenir à vous et aussi, docteur Noël Tchani, qui est encore en ligne. Mais il est temps de prendre Pacifique, qui est à Lubumbashi. Pacifique, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, JR, bonjour également. Je salue les deux invités qui sont avec nous.
Voilà, quelle est votre contribution à ce niveau du débat? Surtout lorsqu'on on fait un regard croisé entre ces deux rapports, le premier celui de la Banque mondiale et le deuxième de la BAD, on se rend compte qu'il y a vraiment une nette contradiction.
Il n'y a pas de contradiction, JR. La plupart de Congolais fait foi au rapport de la Banque mondiale. Alors, si je peux poser la question à votre invité qui est là, le professeur, je ne sais pas si c'est Moïse Okoma, est-ce qu'il a parlé, la BAD a parlé de la croissance, mais qu'il nous dise, parce que lui il est expert en économie, quels sont les indices? Les indices? C'est lequel? Parce que c'est la même chose. Ma tata nous avait également parlé sur le macroéconomie, mais sans effet dans les vécu quotidiens de Congolais. Mais au moment où nous parlons ici, il a finalisé de construire Matata Pognon, l'ancien premier ministre, l'université, école primaire, les hôtels, tout ça. Avec quel argent, si ce n'est c'est pas de l'argent des mines?
Oui, Pacifique, là je crois
nous
que...
Nous le connaissons.
Oui, Pacifique.
Nous connaissons les salaires d'un premier ministre. Mais d'où est venu cet argent-là pour qu'il construise comme ça si ce n'est pas l'argent des mines? Le grand Katanga aujourd'hui ne répond que des trous et des trous, mais... En réalité, il n'y a plus rien. Mais s'il y avait une très bonne traçabilité, tous ces jeunes gens qui sont en train de finir les études ici, mais qui n'ont pas d'emploi, mais ils pouvaient être des véritables chômeurs, ou à la fin du mois, bon, on les gratifie avec quelque chose. Mais aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de traçabilité, le peuple tombe encore dans la misère la plus noire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice, GR. Les rapports de base n'est pas un fait nouveau. Ça ne vient tout simplement que de nous éclairer et de nous donner une évidence. Parce que la pauvreté est là. Les faits sociaux sont totaux et globaux. Lorsqu'un élément dans un engrenage change, ça ramène tous les autres éléments à changer. C'est où la politique va très mal et le pays ne marche pas. Il y a la gestion. Donc, ceux qui gèrent le pays, ils sont là et savent que demain ou après demain, je ne serai pas là. Autant prendre.
Merci.
Voilà.
Alors, on va... voilà, on va évoluer par rapport aux indices. Et on va prendre également Valérie qui nous a rejoint. Valérie, vous êtes avec nous. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour aussi à l'invité.
Quelle est votre contribution, Valérie?
Merci, JR. J'ai suivi religieusement la présentation du thème et la thématique. Ça appelle de ma part plusieurs observations. La première, c'est le propre d'un pays où il n'y a pas de classe moyenne. Quand vous entrez dans un pays, vous trouvez qu'il y a un clivage entre les riches et les pauvres, peut-être entre les riches et les minables, si je n'exagère pas. C'est ça la caractéristique. C'est-à-dire que les richesses ne sont pas clairement distribuées. Il y a injustice sociale, il y a vol. Deuxièmement, ce ne sont pas des richesses potentielles, parce qu'on nous a toujours dit que le pays est potentiellement riche. Non, le pays n'est pas potentiellement riche. Le pays est effectivement riche. Mais la richesse va quelque part qui est une destination différente de celle ad hoc. Troisièmement, qui gère maintenant ces richesses? Nous voyons sur la scène politique souvent des guerres entre la majorité et le rassemblement. Mais c'est la majorité qui gère, ce n'est pas le rassemblement. Depuis qu'on a donné ces rapports, quelle est la réaction de la majorité présidentielle? Surtout, j'ai aimé l'intervention d'un des amis qui a dit « Ce qui nous gère ne s'interpelle même pas. Si j'arrive chez vous, je dis à vos enfants que voilà, votre père, il travaille chez les Nations Unies, il a par exemple, j'exagère, 15 000 dollars par mois. » Et que les enfants se disent « Mais pourquoi nous n'allons pas aux écoles d'un autre papa et des enfants d'un autre papa qui touchent 3 000 dollars ?» Et que vous aussi, vous ne vous justifiez même pas pour dire que non, il a menti. Mais non, ça ne doit pas aller comme ça. Mon frère,
merci,
ça signifie que les richesses sont détournées et il y a des preuves. Les preuves aussi, c'est quoi? Les preuves, c'est l'absence de la justice, comme l'a dit encore l'un de mes prédécesseurs. Nous pouvons encore citer beaucoup de rapports qui ont été faits et qui n'ont jamais été suivis en matière de corruption, entre autres les rapports de Porcel, Luzo, le Bande de l'ESA. Alors, vous voyez que dans cet état de choses, ce n'est pas normal. D'où on ne doit pas nous dire d'abord que le pays n'a pas d'argent, même pas pour les élections. C'est ça l'argent, c'est ça la preuve.
D'accord.
On nous dit
merci.
Encore quoi, l'argent
merci.
Est là.
Merci beaucoup.
Où ça va.
Merci beaucoup.
J'aimerais que le procureur général de la République
se saisisse.
Se lève voilà. Pour exploiter les rapports.
Merci beaucoup, Valérie.
Pardon, avec tout le respect que je dois au professeur, monsieur le professeur, je regrette que vous puissiez nous amener une blanchisserie. Pour laver. Le problème, c'est l'État. Ce ne sont pas les individus. Il y a voilà. L'État qui prend des décisions.
Ok. Alors, on va échanger. Oui, rapidement.
Vous n'avez pas compris mon message. Je n'ai pas dit le problème, c'est les individus. J'ai dit l'approche au problème. Vous voulez que la solution vienne de l'État. Et moi, je dis, l'approche à donner l'argent à l'État qui nous donne, ce n'est pas l'approche. L'approche, c'est ne pas arranger l'État. Pour qu'il arrange le système. Moi, je dis, il faut qu'on regarde comment on peut donner l'argent aux individus. Et puis ça, c'est l'État qui nous prend les taxes. Je pense, je comprends votre colère, je comprends votre énervement, mais je dis encore, il faut qu'on élève le débat. Eh bien, pour élever le débat, il faut aller
voilà.
Au-delà de la
passion. On va essayer de scruter un peu le plan Marshall de Dr. Noël Tchani par rapport à plusieurs pistes de solutions qu'il a dû préconiser. Dr. Noël Tchani, d'abord réaction par rapport aux auditeurs, et puis vous êtes candidat à la présidentielle pour les prochaines élections. Vous l'avez déjà annoncé, ce n'est plus un secret, hein. Je crois que ce n'est pas le moment de faire la campagne, mais au moins vous avez proposé un plan Marshall pour sortir ces pays de la crise et aussi tendre vers le développement. Docteur Noël.
Oui, effectivement. D'abord, je voudrais dire par rapport à réaction donc, à ce que mes prédécesseurs viennent de dire, que pour améliorer donc, la gouvernance dans les conditions actuelles, nous devons faire les choses correctement. Il y a des réformes politiques qu'il faut faire, il faut respecter les textes, il faut respecter la Constitution, il faut aller aux élections dans des conditions transparentes. Donc, ça, c'est un des préalables pour arriver à mettre en place un système donc, de bonne gouvernance. Et une fois que nous avons fait ça, il nous faudra faire du budget national le véritable outil de gestion moderne donc du pays qui intègre toutes les ressources publiques et toutes les dépenses de l'État. Parce que ce qui se passe actuellement avec tout plein de ressources qui n'entrent pas dans les caisses de l'État, ça ne permet pas au pays donc d'avoir des ressources nécessaires pour financer véritablement donc le développement. Mais alors, en ce qui concerne la proposition donc que je fais, le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction de la RDC, je suis parti justement donc du constat que le Congo, avec toutes les ressources naturelles que nous avons, il n'est pas normal que nous soyons aujourd'hui classés comme étant l'un des pays les plus pauvres du monde, justement à cause de la mauvaise gouvernance qui caractérise donc notre pays. Alors, le plan que je propose vise à développer la RDC et à créer des opportunités pour tous les Congolais et pour toutes les Congolaises. C'est-à-dire que ma vision est que le développement de la RDC doit passer d'abord par le rétablissement de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, parce qu'on ne peut pas développer un pays lorsque on a des poches d'insécurité un peu partout, donc à travers le pays, il y a des Congolais qui sont massacrés chaque jour.
Oui, mais docteur, est-ce que la bonne gouvernance signifie fraude zéro, corruption zéro?
Ben, c'est ça l'objectif auquel nous devons
tendre. Même aux États-Unis,
éviter donc la fraude, bien que ça existe toujours même dans les sociétés où il y a la bonne gouvernance. Mais notre objectif donc doit être de miser à éliminer donc la fraude, la corruption, littéralement tolérance zéro.
Et quel est selon vous l'indice majeur de la bonne gouvernance?
Bon, je ne veux pas entrer donc dans la sémantique donc de l'indice majeur. Moi, ce que je voudrais dire ici, c'est que la bonne gouvernance en ce qui concerne donc la RDC doit se traduire par la mobilisation de toutes les ressources publiques qui doivent entrer dans les caisses de l'État pour qu'on utilise ces ressources publiques pour financer le développement. C'est ça donc la base. Actuellement, le Congo a tout plein de ressources publiques, mais qui n'entrent pas dans les budgets nationaux. Alors, comment voulez-vous...
La défaillance, c'est à quel niveau? Parce que nous avons des régies financières qui sont chargées, qui ont comme mission de pouvoir récolter l'argent pour les trésors publics.
La défaillance se trouve à tous les niveaux. Au niveau d'abord de la volonté politique. Pourquoi? Parce que, regardez, depuis pratiquement 2 années, on a mis en place le conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance. Il a sorti donc des listes en disant voici la liste des personnes qui sont soupçonnées d'être impliquées donc dans des cas de corruption. Mais depuis qu'on a vu donc cette sortie des listes il y a 2 ans jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun cas de corruption qui a été résolu. Donc l'exemple vient d'en haut. Si on dit au niveau politique qu'on veut lutter contre la corruption et qu'on ne fait rien pour arriver à régler des cas donc de corruption, c'est que on ne donne pas donc le bon signal qu'il faut. Et c'est ça la situation que le Congo est en train de traverser aujourd'hui. Et une fois que les gens au niveau du pays réalisent qu'au niveau le plus élevé de l'État, qu'il n'y a pas donc de suivi sur les promesses ou bien sur les effets d'annonce.
Que répondez-vous
alors, arrive à réaliser que l'État n'est pas sérieux pour arriver à lutter véritablement contre ces cas de corruption et par conséquent le laisser aller.
Alors qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent qu'il va falloir repenser au fait les systèmes de traçabilité de recettes de l'État?
Il n'y a pas que le système de traçabilité du recette de l'État qu'il faudra repenser. Je pense qu'il faut juste penser à refaire la gouvernance du pays au niveau politique le plus élevé. Pour que, au niveau le plus élevé, quand on décide, on dit qu'on va faire quelque chose, qu'on le fasse réellement pour que les gens puissent voir réellement que il y a cette volonté politique de lutter contre la corruption et de mettre en place donc des institutions qui fonctionnent normalement, qui est l'état de droit. S'il y a l'état de droit, si la justice fonctionne normalement et qu'il y a des gens qui sont accusés de corruption ou bien de mettre des mains dans les caisses de l'État, que ces gens soient traduits devant la justice de façon transparente et qu'il y ait des sanctions exemplaires qui soient prises donc contre ces personnes-là. En ce moment-là, j'estime que la population pourra être convaincue qu'au niveau le plus élevé de l'État, on a la volonté de pouvoir changer les choses.
Voilà. Docteur Noël, on va revenir à vous, le temps qu'on accorde la parole à celui qui est dans le studio, professeur Joe M. Sekimonio. Pour vous, quel est l'indice majeur de la bonne gouvernance?
Encore ici, je dis la bonne gouvernance n'a rien à voir. Je vais vous donner l'exemple. Je vais répondre à celui qui a parlé de la Chine. Il a tout faux. La Chine, Mao Tse-tung a parlé de la politique. Il parle de politique, il faut planter le riz. C'était un mouvement populiste. Plus de 80 millions de gens sont morts de faim à cause de sa décision politique. Quelqu'un vient et remplace Mao Tse-tung. Il s'est dit non, on va faire une politique économique. On aura une vision pour 30-40 ans. L'industrialisation, l'innovation, ça a pris 30 ans pour que la Chine rattrape les États-Unis. Sur le plan technologique. Ça, c'est une politique économique
Je répète encore, Mao a parlé comme il était émotionnel. Il a implémenté un système agriculture sur des raisons politiques. 80 millions de gens sont morts de faim. Alors, si vous voulez me parler de la politique...
Chine, c'est, pour vous, c'est un mauvais exemple.
C'est un mauvais exemple. C'est que vous n'avez pas fait votre devoir. Mm-hmm. Et si vous voulez qu'on parle de l'agriculture ici, et quand il y aura des gens qui vont mourir de faim, alors vous allez me donner...
Pensez à cette politique économique pour le Congo, il faut combien de temps? Parce que si la Chine a mis 30 ans après pour qu'on avance, mais le Congo, il faut combien de temps? Parce que déjà, on est très avancé, selon la BAD, avec la croissance...
Oubliez la BAD. Parlons d'avoir la discussion. Qu'est-ce qu'on veut faire du Congo demain? On sait que le moyen, aujourd'hui, le Congolais ne peut pas faire la compétition.
Vous vous proposez qu'on ne fasse pas attention au sous-sol. C'est fini cette histoire. Oublions les sous-sols.
On doit parler de... Aujourd'hui, le Congolais ne peut
pas... Vous ne voulez pas non plus qu'on parle de l'agriculture? Qu'on parle de l'homme?
Non, on parle de l'homme. Ça veut dire le moyen que le Congolais a pour participer dans le commerce.
Mais le Congolais n'a pas de moyens.
Pour participer au 21e siècle. Il
Quels
n'a pas les moyens.
Quels sont ces
c'est
moyens?
Pour cela qu'on doit lui donner les moyens. On doit pas
Qui
lui
va
dire.
Lui donner les moyens?
Nous, en discutant. Ici, on est en train d'en parler. Je vous dis aujourd'hui au 21e siècle. Je peux vous dire Google. Google vient de donner 1 milliard en jeu pour toute ONG qui va développer labor force, les gens du travail avec la technologie. Pourquoi? En Occident, ils ont un problème de la population qui va décroître. Ils veulent garder le même la vie. Mm-hmm. Alors, ils doivent trouver des employés quelque part qui vont travailler pour eux. Mm-hmm. Mais maintenant, il faut que le Congolais sache comment participer au 20e siècle pour produire des produits avec cette qualité. Aujourd'hui, on n'a pas, on peut pas compétir. Mais si on tourne notre système d'éducation, d'ici, il y aura une génération. Il y a une génération qui va devenir pas seulement congolais, mais ils vont devenir humains. Quand je parle de humains, ça veut dire
donc il faut un bureau d'études pour penser à tout ça.
C'est ça. Mais
une intelligence pour réfléchir et au lieu qu'on s'éternise à chercher les sexes des anges sur le plan politique, parlons économie.
C'est ça que je suis en train de dire. Tant qu'on n'a pas commencé ça, on va aller dans la voie de Mao.
Donc les même les élections ne seront pas une panacée.
Non, c'est pas.
Voilà. Merci beaucoup, professeur Joe M. Sekimonio. On va revenir à vous. Le temps d'accorder la parole à nos deux derniers auditeurs qui nous ont rejoints, Maître Ngandou et Franck de Vienne. Et Maître Ngandou, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, Gilles Agier.
Oui, ouais. Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Bon, JR, vraiment, c'est un problème crucial. Vous savez, d'abord, le problème se situe au niveau international. Aujourd'hui, les puissants, disons, les multinationaux viennent à travers les dirigeants qu'ils ont placés en place pour continuer à exploiter sans payer. Ça, tout le monde, personne ne l'ignore, les dirigeants surtout au sommet de l'État. Et étant donné que leur protection provient de l'autre côté, ils sont là, ils ferment les yeux devant l'exploitation abusive des multinationaux. Mmh. Et c'est sur ce plan-là, on pouvait aussi crier qu'il y a des détournements. Mais moi, je pense aussi que le problème se situe au niveau de nos dirigeants. Vous savez, la population, lorsqu'il voit les dirigeants voler, lui aussi vole, parce que vous savez, notre population ne paye pas l'impôt, et ça c'est vrai. Mmh. Il faut vous renseigner vraiment la population dans sa majorité.
On n'a pas cette culture fiscale.
Pas dans la caisse de l'État. Et c'est un problème. Étant donné qu'ils voient les autres voler, les modèles voler, ils n'est même pas inquiété. Parce que celui qui vole n'a pas le temps de contrôler l'autre. Mmh. Et si on trouvait ne serait-ce qu'une bonne personne, parce que vous savez, oui, vous voulez intervenir là.
Voilà, merci beaucoup, Maître Ngandou.
Non, mais j'ai pas fini mon idée.
Non, mais parce qu'on a pris assez de temps, on va comprendre. Bon, rapidement alors, on vous accorde une minute. Parce qu'on
je disais, si on pouvait trouver ne serait-ce qu'une bonne personne, parce que juste là, il n'y en a pas. Hein. Le président a parlé de 15 personnes, lui bon,
les
15,
on n'a pas encore trouvé. Merci beaucoup, merci. On a compris votre message, Maître Ngandou.
C'est dommage.
Merci beaucoup. Alors, Franck, vous avez droit aussi également à une minute, et puis on va conclure avec nos deux invités. Franck.
Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que de tels rapports doivent être lus et perçus comme l'absence de l'application des textes légaux, l'absence totale de la justice. C'est ainsi que ce dysfonctionnement entraîne le fait que chacun se taille sa part du mignon là où il se trouve. Et par rapport aux argumentations des deux profs, je crois qu'on peut trouver un point commun. Le développement et le vrai développement de la République démocratique du Congo passe absolument par le changement de mentalité de ses citoyens. Tant que les citoyens congolais ne vont pas changer leur manière de penser, on peut avoir des structures fortes, on peut avoir un état de droit, mais cet état de droit devra être incarné par le mental des hommes. Et je crois que la justice doit s'interpeller, le Parlement doit s'interpeller parce que ce n'est pas le premier rapport du genre, ce ne sera pas le dernier. On nous fait voir, on nous fait dire, on nous fait lire, mais notre justice ne fait rien. Et quelque part, Et on se demande, le ministre dénonce les 3V, tout le monde est derrière les 3V. Il y a des rapports qui pullulent partout, mais il n'y a aucune réaction.
Aucune réaction, merci. Avant
une justice ou pas. Et
merci.
Je crois que c'est l'homme congolais qui doit s'interpeller parce que le Congolais
voilà.
ne doit pas
Donc
attendre.
Vous...
Il ne doit pas penser que l'autre vient
voilà.
mieux
merci
faire
beaucoup,
à sa
Franck.
Place.
Merci
je
beaucoup.
Crois que c'est à l'homme congolais de changer, de s'interpeller du fond de son intérieur.
Merci beaucoup Franck, on va conclure cette émission, mais j'aimerais bien pour mes invités qu'on puisse conclure un peu par rapport à ce que venait de dire Maître Ngandou tout à l'heure, l'influence multinationale, est-ce que ça joue quand même un rôle? Docteur Noël, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous,
voilà.
effectivement.
En conclusion, vous avez une minute
moi,
et trente.
Moi je pense qu'il ne faut pas toujours que nous puissions blâmer à l'extérieur, les entreprises multinationales, et ce ne sont pas des saints, certainement, et ce sont des entreprises qui sont là pour se faire du profit. Mais de l'autre côté, ici, au niveau donc congolais, je crois que la responsabilité est la nôtre d'abord. Nous devons avoir un système politique et des dirigeants politiques qui sont responsables, qui sont là pour veiller à ce que le Congo puisse se développer dans l'intérêt des Congolais et qui vont mettre en place des mécanismes pour pouvoir surveiller toutes ces entreprises multinationales et qui vont mettre en place donc des systèmes pour que quand une entreprise multinationale donc ou n'importe quelle entreprise donc opère au Congo qu'elle puisse donc payer les droits qui sont dus donc à l'État et que cet État quand il reçoit ses droits puissent les utiliser effectivement pour financer donc le développement du pays. Mais il ne faut pas toujours que nous puissions blâmer l'extérieur en pensant que nous devons, nous autres, nous sommes irresponsables de ce qui se passe donc dans notre pays. Nous sommes les premiers responsables de la situation que traverse la RDC actuellement. Donc moi, je souhaiterais que nous puissions commencer par mettre en place un leadership politique convaincant qui sait exactement ce qu'il veut et qui a une vision de développement et qui puisse mettre en œuvre cette vision de développement au profit donc de la population congolaise.
Merci beaucoup,
donc,
Dr. Noël.
Cette responsabilité-là, elle est la nôtre en tant que Congolais.
Merci beaucoup, Dr. Noël. Je crois qu'avec le décalage, nous vous avons arraché de votre lit pour intervenir dans cette émission. En tout cas, merci de la confiance que vous continuez à faire à cette émission. Alors, on va conclure également avec vous, professeur Joe M. Sekimonio. Vous êtes expert et analyste économique. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir pour vous?
Je félicite Dr. Noël, je suis d'avis avec lui, on ne doit pas accuser l'extérieur, mais c'est là on se sépare, c'est une idée, la démocratie c'est une compétition d'idées, pas de personnalité. Jusque là on est en train de parler de personnalité, on parle de leadership, ça veut dire le leader c'est celui qui fait des gens faire ce qu'il ne veut pas faire.
L'État-providence qui doit donner à manger à la population,
moi,
qui doit chercher
non,
de l'argent pour...
Je dis c'est une compétition d'idées, ça veut dire quel genre de développement qu'on veut, et ça, à ce moment-là, moi je dis je ne veux pas les élections. On a fait ça en 2006, on a fait ça en 2011. Ça, c'était une compétition de personnalité. Aujourd'hui, on doit arriver à un niveau d'élever le débat. Les gens sont en colère, mais on doit arriver à dire qui va venir nous dire le SMIG, comment qu'on va faire le Congolais de demain qu'il soit compétitif dans le monde global.
Le SMIG que nous avons aujourd'hui, ça ne répond pas à la
non,
réalité. C'est quand vous avez 3 dollars, à peine vous avez c'est 90 dollars, c'est insignifiant.
Comment celui-là va? Il y a un petit qui travaille en France. C'est tout. Il va au McDo, il fait cet argent. Ça veut dire le Congolais ne peut pas compter, il n'a pas d'argent. Même le système d'éducation aujourd'hui ne permet pas aujourd'hui qu'une multinationale comme Microsoft ouvre ici. Aujourd'hui, on aura les compagnies qui vont se macraiser et vendre. Moi, je veux que Microsoft viendra ici pour les recherches si on a les moyens. Si les gens ils peuvent venir au Congo, on a un système d'éducation que les gens ont le moyen de participer au développement, aux entreprises du 20e siècle. Creuser et vendre l'agriculture comme à la roue, ça c'est le 18e siècle. Et moi je suis ici, je dis une chose, on doit élever le débat. Le Congo c'est comme une boulangerie. Il y a un ami qui a dit, et ça nous manque un bon boulanger. Et moi je l'ai corrigé, je dis, on n'a pas besoin seulement d'un bon boulanger. On a besoin du caissier, de tout le monde.
Voilà. Quoi. Merci beaucoup, professeur Joe M. Sekimonio, d'avoir accepté notre invitation. C'était
c'est
un grand plaisir, en tout cas, de partager ces 57 minutes interactives avec les auditeurs ici au pays et à l'étranger. Nous disons également merci à Noël Tchani, qui est d'ailleurs candidat à la présidentielle aux prochaines élections. Merci à tous les auditeurs qui ont contribué de manière très, très, très riche dans cette émission. On prend rendez-vous demain dans un autre numéro des Paroles aux Auditeurs. Nous n'allons pas nous quitter sans pour autant dire merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission, Pierrot Lameji, Nico Kalambay et aussi Jean-Noël Mokondo. Cette émission vous a été coordonnée et présentée par J.R. Lugembo Lwabung Anji. À très bientôt.